bonsoir à tous. La mobilisation des entrepreneurs est forte en cette fin d'année. Entre les agriculteurs et les artisans du BTP, le gouvernement et le Parlement sont attendus au tournant. L'agglo de Bay construit son budget 2026 avec des zones d'ombre en ce qui concerne les recettes. À Cerizay, la ville prévoit 500 000 euros. Pour le domaine de la Roche, il s'agit principalement de consolider la digue de l'étang. La journée internationale des migrants a lieu demain et le collectif départemental va se rassembler à Niort. Et puis dans le Thouarsais, les collectivités misent aussi sur le trail pour développer le tourisme.
À côté météo, alternance d'éclaircies et de nuages, une grande partie de la journée de demain.
Un mot sur la colère agricole qui s'exprime crescendo depuis le début de la semaine avec en toile de fond la gestion de la crise sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuse. La coordination rurale se dit prête à bloquer la 10. Au niveau de la crèche, notre but est d'affamer Paris, a déclaré Philippe Germont à nos confrères de la Nouvelle République alors qu'une action est prévue ce soir à Mel. La DNC, on en reparle en détail demain matin dans la chronique de Ludo et Jacqueline à travers champs. C'est à 7h40 chaque jeudi.
Les artisans du BTP ont appelé à se mobiliser ce mercredi.
À l'appel de la CAPEB, ils s'alarment notamment sur les incertitudes qui pèsent sur ma prime Rénov. Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement, a récemment annoncé que ce dispositif serait suspendu si le Parlement n'adopte pas le budget avant le 31 décembre. Cette perspective est vue comme une potentielle énième catastrophe par la CAPEB, mais ce n'est pas le seul point de crispation en Deux-Sèvres. Ils étaient une quinzaine devant les grilles de la préfecture de Niort avant qu'une délégation ne soit reçue ce midi par les services préfectoraux. Écoutez le président de la CAPEB 79, Michael Berthelot.
Les choses qui focalisent sont à la fois MaPrimeRénov, la récupération des déchets de chantier, le statut de la micro-entreprise et en même temps, pour les artisans des travaux publics, le gasoil non routier.
Quelles sont les conséquences pour les entreprises, les petites entreprises du bâtiment ?
Je dirais que c'est multiple. Selon les cas, ça peut être pour MaPrimeRénov, nos clients, avec les différentes péripéties de MaPrimeRénov, ne savent plus, je dirais, où se vouer. Est-ce que j'ai encore le droit à MaPrimeRénov? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que l'isolation rentre dedans? Est-ce que l'isolation rentre pas dedans? Voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Cette interrogation crée du doute. Et un client qui a du doute, c'est un client qui ne fait pas. Nos entreprises sont des gens qui sont responsables, qui ont un savoir-faire, qui ont un savoir-être. On n'est pas des entreprises commerciales. On fait vivre notre territoire et demain, on a envie d'être là au même titre que, je dirais, les différentes entreprises de proximité, que sont nos boulangers, que sont nos charcutiers. On est nécessaire sur les territoires et il faut qu'on reprenne à réécouter ces entreprises de proximité.
Michael Berthelot, le président de la CAPEB, à 79, pour l'heure, il n'est pas prévu de renouveler l'action de ce matin. En revanche, à l'approche des élections municipales, les candidats seront sensibilisés à la cause des petites entreprises du bâtiment.
S'il y a souvent du brouillard en ce moment, il y en a aussi beaucoup pour ceux qui doivent établir des budgets.
Notamment pour les collectivités dont les recettes dépendent en grande partie de ce que leur verse l'État et le projet de loi de finances se fait encore attendre. Sans rentrer dans le détail technique, il faut tout de même savoir que les recettes sont principalement assurées par la fiscalité et par des dotations de l'État et des subventions. Donc les marges de manœuvre et les leviers d'action sont restreints pour une collectivité comme l'agglo de Bay qui discutait hier soir de ses orientations budgétaires. Claude Pouzin, vice-président de l'agglo en charge des finances.
C'est côté recettes qui nous interpelle un peu sur ce rapport d'orientation budgétaire puisque on connaît pas vraiment l'état de nos recettes, notamment fiscales pour l'année et les concours de l'État sur l'année 2026. Donc on fait un budget un petit peu dans le brouillard. Mais ce qui nous incite d'autant plus à resserrer autant que faire se peut les dépenses pour présenter un budget qui soit mieux qu'à l'équilibre pour se dégager des marges de manœuvre pour investir. Puisque c'est ça l'essentiel.
Et si Claude Pouzin conserve une certaine sérénité, car il n'y a pas péril en la demeure, pour Pierre-Yves Marolo, le président de l'agglo de Bay, établir le budget en ce moment, c'est comme jouer à un jeu sans en connaître les règles.
C'est comme quand on joue à un jeu et qu'on connaît pas les règles. Donc nous, c'est à peu près ça. On connaît pas les tenants, les aboutissants. Encore, on sait qu'on aura des diminutions. Ça, on a été des diminutions d'aide de l'État, par exemple. On fait un gros travail là depuis maintenant 3 semaines avec des réunions avec tous les services. Bon, il y avait une feuille de route très claire. C'est de limiter au maximum l'augmentation. On sait très bien que quand on a des budgets comme ça incertains, les fonctionnements, on peut pas pas trop y toucher et que c'est malheureusement sur les investissements qu'on va diminuer. Et on sait aussi que 70% de nos investissements sont assurés, assumés, je parle de la partie travaux, par des entreprises locales au sens large. Les élections qui approchent font que de toute façon il faut qu'on vote le budget début février, mais je pense que la nouvelle équipe qui sera en place à partir du mois d'avril aura sans doute à faire des corrections.
La vote du budget donc le 3 février, d'ici là les élus se retrouveront en bureau communautaire puis en conférence des maires le 6 janvier.
Nous l'évoquions hier, la ville de Cerizay a fléché près de 500 000 euros d'investissement sur le domaine de la recherche.
Il a fallu délibérer en ce sens dès lundi soir dernier pour le conseil municipal afin d'enclencher les demandes de subventions auprès de l'État. Écoutez les précisions du maire de Cerizay, Johnny Brosseau.
Sur l'étang du domaine de la Roche, on a une obligation légale. C'est des éléments d'aménagement et de sécurité liés à l'étang du domaine de la Roche et à l'aménagement de la digue qui contient tout l'étang et qui a besoin d'un confortement, d'une mise aux normes. Donc ça passera bien sûr par une phase de vidange pour entrevoir ensuite des travaux structurants sur cette digue et le chemin du domaine de la Roche. Donc pour ça, il y a un calendrier très spécifique. Les services de l'État demandent s'ils veulent, si on veut bénéficier de moyens dans le cadre d'une dotation d'équipement, eh bien de devoir déposer avant le 22 décembre une délibération avec un stade très avancé d'études de travaux. C'est ce qu'on fait avec un cabinet d'études qui nous accompagne depuis près d'un an et donc sur lequel on va solliciter auprès des services de l'État une subvention qui va avoisiner les 280 000 euros dont on souhaite obtenir eu égard à l'enjeu. Hein, on n'est pas sur du loisir, on n'est pas sur du ludique, on est sur de la sécurité.
Le bureau d'études planche depuis plusieurs semaines sur l'avant-projet définitif et ce n'est pas du bénévolat car il faut déjà compter 50 000 euros sur ses prestations intellectuelles.
Toutes les collectivités y sont contraintes. On n'a pas forcément les services intégrés. On est obligé de faire appel à des bureaux d'études, des cabinets spécialisés. Donc on a l'exemple de cet étang du domaine de la Roche, hein, qui est un ouvrage très spécifique, qui nécessite des compétences très particulières, avec un cabinet qui est du sud de la France, qui nous accompagne, hein, sur cette démarche. Et les prestations intellectuelles sur cet ouvrage, eh bien, c'est de l'ordre de 50 000 euros. Mais ce soir, on a aussi voté une enveloppe pour accompagner la destruction du Carrefour Contact, hein, qui s'envisage sur le premier semestre 2026 pour entrevoir la réalisation ensuite de 14 logements. Et ça impacte l'environnement direct du Carrefour Contact avec la réaffectation, la requalification de la place du Chêne Vert. Et ce soir, on a voté là aussi une enveloppe de maîtrise d'œuvre, de prestations intellectuelles pour réfléchir à comment organiser cet espace, circulation, stationnement, verdissement, de 40 000 euros pour pouvoir nous accompagner sur ces éléments techniques avant d'entrevoir des travaux.
Et à propos d'intelligence, le DGS Stéphane Raffin testait lors de ce conseil municipal lundi un nouveau dispositif d'enregistrement faisant appel à l'intelligence artificielle permettant de restituer et de résumer tout ce qui a été dit en temps réel.
Demain, 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants.
Et le collectif Accompagnement Migrants 79 qui fédère les principales associations départementales leur venant en aide se rassemble ce 18 décembre, ce jeudi, à 18h, rue Victor Hugo, à Niort, pour un moment festif de lutte contre les préjugés anti-migrants. Gilles Maréchal de l'Ardib s'exprime ici au nom de ce collectif.
Et les difficultés sont à plein de niveaux, quoi, hein, que ce soit l'école, le logement, la santé, la culture, le travail. Quoi, hein, c'est en grande difficulté, hein, pour s'insérer pleinement. D'ailleurs, qu'ils aient des papiers ou qu'ils soient sans papiers. Les sans titres de séjour en premier, mais ceux qui ont des titres de séjour sont de plus en plus en situation de précarité continue, quoi. Et les titres de séjour sont de plus en plus temporaires, quoi. Mais ils contribuent de façon toute simple au fonctionnement de la France, hein, et ils ont une part très très importante dans l'hôtellerie, la restauration, dans les travaux publics, dans l'aide à la personne, jusque dans le secteur hospitalier, dans l'agroalimentaire, dans notre secteur, quoi. Ils sont très très présents et ils sont indispensables. Et donc l'enjeu, c'est de reconnaître cette part qu'ils apportent à l'économie française et c'est de permettre qu'ils soient reconnus pleinement, quoi.
D'autant plus quand le déclin démographique se confirme, comme c'est le cas en France. La journée internationale des migrants, c'est demain, 18 décembre, avec un rassemblement à 18h rue Victor Hugo à Niort, près du Grand Sapin. Après 22 ans de programmation artistique pour les festivals Éclat de Voix, Terre de Danse et Voix et Danse, Anne-Sophie Allan quitte ses fonctions à Voidens où elle sera remplacée par Florence Simon. Anne-Sophie Allant réintègre l'agglo en tant que chargée de mission culture et cohésion sociale.
Le Thouarsais se jette dans la course nature avec un label Handispot.
Après le Niortais et Parthenay, le Thouarsais succombe à l'appel du trail, c'est-à-dire la course sur les pistes et les sentiers avec des millions de pratiquants, du débutant au confirmé. Ce public constitue un gisement de clientèle large et équipé d'un pouvoir d'achat plutôt bien assis en général. C'est pourquoi l'Office de tourisme n'a pas voulu rester les deux pieds dans les mêmes baskets, comme l'explique Esther Maillet, l'élue référente micro-colline de Dominique Hérault.
On a 5 parcours balisés, dont un qui est urban trail, comme on dit, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur de Thouars. On a le cirque de Missé, on en a un qui est à Argentine, au bord du Thouë, un qui va de Luzé à la voûte de Montcou, et puis les carrières et la vallée du Pressoir. Donc c'est à chaque fois des paysages très différents. Ce travail était conjoint avec tous les services de la communauté de communes, évidemment la maison du Thouarsais, le service des sports, le service du patrimoine, les services techniques et toutes les actions sportives du territoire, notamment l'UST. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a travaillé, comme beaucoup de stations de trail, avec OnPiste, qui fait partie du groupe Rossignol. Ils abordent leur savoir, ils nous aident à tracer les parcours, et puis après, il va y avoir une appli que les gens auront sur leur portable qui trace tous les parcours.
Et parmi les 5 parcours nature, 3 sont ouverts à des pratiquants particuliers, Esther Maillet.
C'est-à-dire des parcours qui sont labellisés, on dit handispot, c'est-à-dire pour le handicap. C'est une façon de dire que vraiment c'est un territoire inclusif et que les gens, même avec un handicap, peuvent aller sur ces parcours-là. En fait, c'est quelque chose qui va être bien pour nous parce que c'est ça se rajoute et on voit bien que c'est les tendances aujourd'hui avec ce tourisme sportif qui rajeunit un peu les touristes qu'on a l'habitude de recevoir. Et je pense qu'avec l'offre sportive qu'il y a maintenant à Thouars, avec le skatepark, avec les bassins du Thouë, etc., je pense que c'est une ville qui a pas mal d'atouts.
Montant total de l'investissement, environ 40 000 euros, dont 24 000 euros subventionnés par le GAL, c'est-à-dire des fonds de l'Europe. Reportage de Dominique Hérault.
On se penche sur les baskets, reçoit Badalone ce soir à la Meilleraie.
Coup d'envoi à 20h pour cette 6e et dernière journée dans cette poule de Champions League. Si Badalone, avec 5 victoires, a déjà son ticket pour la suite, CB est en concurrence avec l'Apoel Holon pour la 2e place, afin d'aborder au mieux les play-in, sorte de barrage pour atteindre la prochaine phase de poule. Après une série difficile, CB a relevé la tête. Et de quelle manière? En s'imposant dimanche sur le parquet de l'Asvel. Fabrice Lefrançois espère poursuivre sur cette lancée face à une équipe espagnole qui sera privée de Ricky Rubio. C'est dommage pour tous les fans de basket qui se faisaient une joie de voir à l'œuvre à la Meilleraie la star espagnole. Ça paraît en revanche plus jouable pour les Choletais, même si pour le coach Fabrice Lefrançois, Badalone peut largement compenser cette absence.
Ils ont une équipe d'Euroligue, donc ils peuvent enlever un ou deux joueurs, même si effectivement un gars comme Rubio, c'est toujours sympa de le jouer, mais ça reste une équipe de très haut niveau, et qu'il reste que Tomic et puis ses nombreuses années Euroligue, Adamoga et ses nombreuses années Euroligue, etc. Donc moi ce que je veux, c'est être compétitif, et voilà, quels que soient les joueurs qui en face.
Match à 20h, avec au commentaire Sylvain Schwartz et François Larue. François qui a interrogé la pépite Aaron Towunanzi, auteur d'une performance remarquée dimanche à l'Asvel. La vidéo est dispo sur nos réseaux et je vous la recommande. Fabrice Lefrançois, coach de Cholet Basket que vous venez d'entendre, sera l'invité du prochain podcast réalisé par Ouest France et Colline. Et l'enregistrement se fait comme d'habitude en public ce jeudi à 19h au 5. Il est plus prudent de réserver pour s'assurer d'avoir une place dans l'établissement Choletais.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Et Fabien, après finalement un mercredi assez ensoleillé.
Demain, on nous prévoit un ciel partagé entre plus ou moins de soleil et plus ou moins de nuages. Une grande partie de la journée, la pluie pourrait faire son apparition à partir de la soirée. Un jeudi venteux, des rafales à 50-60 km/h. Les minimales à 8 degrés et toujours aussi douces ces températures avec des maximales situées à 13-14 degrés.
Alors ça sent Noël au balcon ou pas ?
Je crois que ça descend par la suite.
Ça va descendre un peu.
Je peux pas aller voir très loin.
J'ai pas été voir.
Les températures descendent un petit peu, mais à vérifier quand même.
Et c'est déjà dans une semaine, on y sera. Merci beaucoup Fabien pour toute cette info près de chez nous, qui revient demain matin.
Demain matin à 7h, et ce sera Patrice Bémanangy qui vous donne rendez-vous. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.